le chrétien et nos crucifix. Quand Jésus est monté sur la croix, il y a près de 2000 ans, il a pris avec lui toute l'humanité sur la croix. Quand il est mort, toute l'humanité est morte avec lui. Ainsi donc, quand quelqu'un vient au Seigneur Jésus-Christ et naît de nouveau, il est déjà crucifié en naissant. Il doit vivre toute sa vie à partir de cette position de crucifixion, d'une position de mort. Un chrétien est crucifié de naissance. S'il n'agit pas dans chaque situation comme quelqu'un qui est crucifié, il est en contradiction avec lui-même. Un chrétien est crucifié de naissance. Si, dans une situation donnée, il refuse de mourir, il est en contradiction avec lui-même, d'une manière très grave. Un principe de base, la mort à soi-même, le croyant, avant de s'engager dans une relation avec quelqu'un, doit prendre la résolution qu'il n'en sortira pas vivant. Il entrera mort dans cette relation, vivra cette relation en tant que mort et la terminera mort. La croix exige de tous ses sujets la mort et la croix exige la mort en tout temps. Jésus a pris sa croix, l'a portée et a été mis à mort, non pas pour lui-même ou pour Dieu, mais pour les autres. Le Seigneur Jésus a dit « Quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut pas être mon disciple » Luc 14, 27. Puis il dit à tous « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive » Luc 9, 23. Page 112. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Luc 14, 33. Renoncer à tout. Nous avons parlé plus haut de la nécessité de renoncer à tout. Nous nous sommes limités au renoncement aux biens matériels et aux positions sociales. Il faut préciser que lorsque le Seigneur parlait de renoncer à tout, cela signifiait tout, dans tous les sens du mot. Dans toutes les relations personnelles, le croyant est appelé à renoncer à tous ses droits, à tous ses avantages, à tous ses privilèges. Il doit décider de renoncer à tout ceci une fois pour toutes, et il doit renouveler son renoncement chaque jour et à chaque heure, dans chaque nouvelle situation. Si tu es un mari, tu as droit à une maison propre et ordonnée. Mais si ta femme te présente une maison sale et désordonnée, le chemin de la croix exige que tu meures à tes droits. N'insiste pas là-dessus. Meurs à cela. Laisse tomber tes droits. Quand la maison est sale et désordonnée et que tu sens qu'on ne te donne pas ce qui t'est dû, ne te plains pas. N'insiste pas sur ton droit. Charge-toi de ta croix et meurs à ton droit. Il y a quelque chose qu'un homme crucifié doit faire dans une telle circonstance. Il doit nettoyer la maison et ranger chaque chose à sa place, sans se plaindre et sans un mot de reproche. Il se peut qu'en revenant, quelques minutes après, les choses aient été remises en désordre. Il doit à nouveau nettoyer et tout ranger sans se plaindre. Il doit le faire 70 fois 7 fois, c'est-à-dire 490 fois chaque jour avant de se plaindre. Quiconque se plaint résiste à la mort. Il ne sera pas béni. N'insiste pas sur tes droits. Si quelqu'un te salue froidement, tu ne dois pas à ton tour le saluer froidement. Prends la résolution de saluer tout le monde, chaleureusement sans tenir compte de la façon dont les autres te saluent. Ne sois pas sous le contrôle des autres personnes. Agis suivant les principes précédemment énoncés et ajoute si de cet autre principe je traiterai bien mon prochain que soit la manière dont je serai moi-même traité. Ainsi, sois chaleureux envers celui qui est distant envers toi. Donne-toi à celui qui veut s'éloigner de toi. Page 113. Si tu es une épouse, il se peut que ton mari quitte la maison sans t'embrasser et ne te dise même pas où il va. Si la chair, celle de la vieille nature en toi, est encore agissante, tu vas bouder dès le retour de ton mari et préparer des projets de vengeance contre lui. Mais la vieille nature en toi a été crucifiée. Prépare ce qu'il y a de meilleur pour ton mari. Cuisine le meilleur plat, porte ta plus belle robe, accueille-le à bras grands ouverts. Reçois-le chaleureusement et sois attentive à ses désirs avec le maximum d'amour et d'hospitalité. Ne lui rappelle pas ce qu'il a fait. N'attends pas qu'il te demande pardon. Pardonne-lui. Traite-le comme s'il ne t'avait rien fait de mal, car en fait, dès le moment où tu lui as pardonné, il est comme celui qui n'a rien fait de mal. Il se peut qu'il refasse la même chose. Pardonne-lui immédiatement. Ne permets pas à l'amertume et à la frustration de s'établir en toi. L'amertume et la frustration sont des réactions de la chair, et tu sais que ton vieil homme a été crucifié avec Christ. Ainsi donc, ne leur donne pas accès en toi. Ce que tu dois faire, si tu es offensé une seconde fois de la même façon, c'est de recevoir ton mari avec encore plus de chaleur, de tendresse et d'amour. Tu dois continuer à le faire et le faire de mieux en mieux, aussi longtemps qu'il te fera la même offense. Tu ne dois jamais baisser les bras. Tu ne dois jamais cesser. Si tu t'arrêtes, c'est que tu décides de ne plus te charger chaque jour de ta croix pour y crucifier ta chair. Si quelqu'un parle mal de toi, tu dois te repentir si ce qu'il dit est vrai, même si c'est vrai seulement en partie. Et même si c'est totalement faux, tu ne dois pas te fâcher. La colère est une manifestation du moi non crucifié. Mais en ce qui te concerne, tu es né crucifié. Ne permets donc pas à la chair de se manifester. Celui qui dit du mal de toi sans cause mérite certes que tu le traites de la pire manière, mais, sur la croix, Jésus a imploré le pardon du Père pour ceux qui l'ont crucifié. C'est pourquoi, identifie celui qui dit du mal de toi et accorde-lui une attention spéciale. Dis du bien de lui. Chaque fois qu'il dit du mal de toi, dis 100 fois plus de bien de lui. Il a ses défauts et ses qualités? Oublie ses faiblesses, reconnais ce qui est bon en lui et vante-le auprès des autres. Si tu ne peux pas trouver grand-chose de bon en lui, demande au Seigneur de te le montrer. S'il te traite sans respect, traite-le avec beaucoup de respect. S'il préfère toujours la compagnie des autres à la tienne, préfère-le aux autres et honore-le. S'il minimise ton, page 114, œuvre et lève la sienne. Ne dis jamais du mal de qui que ce soit. Je le répète, ne dis jamais du mal de personne. Je ne dis pas que tu ne serais pas suffisamment informé de ce qui est mauvais en lui pour pouvoir en parler. Je dis seulement que tu ne dois pas parler des mauvaises choses que tu connais. Lorsque tu dis la moindre mauvaise chose à son sujet, tu résistes en fait à la mort en perdant par là toute possibilité d'être un disciple de Jésus. Puisque tu as renoncé à tes droits d'avoir une bonne réputation et d'être apprécié, pourquoi donc te préoccuper de ce qu'on dit de toi? Dieu te connaît tel que tu es réellement. Si tu es estimé par Dieu et qu'on te rabaisse, cela ne te rabaissera pas devant Dieu. Si d'autre part tu n'es pas estimé par Dieu et que les hommes t'élèvent au fait de la gloire, à quoi cela te sert-il? La seule position qui compte, en dernière analyse, c'est notre position devant Dieu, et cela, personne ne peut nous l'enlever. Ne te justifie pas toi-même si tu t'es trompé et que d'autres s'en aperçoivent, reconnais-le immédiatement et demande pardon. Puis, ensuite, répare le préjudice. Il peut y avoir une raison pour laquelle tu t'es trompé. Peut-être quelqu'un t'a poussé dans cette erreur. Il t'a mal conseillé. N'explique pas pourquoi et comment tu t'es trompé. Accepte seulement le fait que tu te sois trompé et sois reconnaissant de ce que ton erreur ait pu être révélée. Dis à la personne qui a souligné ton erreur merci beaucoup de ce que tu as pris soin de révéler mon erreur. Sinon, j'aurais persisté dans cette mauvaise voie. Je ferai tout ce que je peux pour changer. Encore une fois, merci beaucoup. Mais si tu bouillonnes intérieurement et que tu te justifies, tu résistes au chemin de la croix parce que tu n'as pas renoncé à toi-même. Seule une personne non crucifiée se sentira blessée lorsque ses erreurs seront révélées. Si tu n'as pas tort et que les autres disent que tu as tort, ne te justifie pas. Ne donne pas d'explication. N'essaie pas de donner aux autres une meilleure image de toi-même que celle qu'on essaie de faire de toi. Accepte les faux témoignages, ils te rapprocheront davantage de Christ. Dis au Seigneur Père, merci pour ces personnes qui voient en moi le mal qui n'y est pas. Il y a un autre aspect du problème. Tu peux avoir tort mais ne pas le réaliser. L'amour propre rend aveugle. Il se peut que tu aies seulement un page 115% de tort et qu'on t'accuse à 100%. Ne te justifie pas, de peur de te justifier aussi pour ce 1% de tort qui te revient, ce qui serait une abomination pour le Seigneur. Si tu es en retard, ne dis pas que c'était à cause de la circulation. Reconnais seulement ton retard et demande pardon, même si tu as été coincé dans les embouteillages. Si tu sers un repas en retard, ne donne pas d'explication sur le retard. Ne dis pas que le bébé pleurait, que la bouteille de gaz s'est vidée, etc. Reconnais seulement le fait. Le repas est servi en retard. Demande pardon. Si tu t'expliques, tu t'efforces de donner une bonne image de toi-même. Si tu t'excuses en disant que c'est à cause de l'enfant, tu essaies de montrer que tu n'as pas tort. Si tu entres dans ta voiture et que ta femme n'est pas encore prête, ou bien si elle entre dans la voiture, en ressort et revient encore, ne crie pas contre elle et ne te plains pas. Ne dis pas que tu vas partir sans elle. Si tu fais cela, tu es en train de refuser de mourir. Prie, Sœur va l'aider à arranger ses affaires. Si tu le fais sans murmure ni complainte, tu manifesteras que ton vieil homme est mort et que tu as renoncé à tes droits. Si tu reviens du travail et que le repas n'est pas prêt, ne t'installe pas au salon en demandant ce qui ne va pas. Ce serait insister sur tes droits. Ne va pas te coucher dans ta chambre. Va à la cuisine. Donne un mot d'encouragement à ceux qui sont en train d'y travailler. Donne-leur un coup de main, dresse le couvert et aide à servir le repas. De cette manière, tu seras un encouragement utile pour ceux qui sont dans la cuisine. Tu transformeras le temps passé à se plaindre et à faire des reproches en un temps utile. Tu faciliteras la préparation du repas et, par là, tu gagneras du temps. Prends l'initiative de la réconciliation s'il y a une relation brisée entre toi et quelqu'un d'autre du fait que tu es mort avec Christ. Tu dois prendre l'initiative de la réconciliation. Le plus mûr fait toujours le premier pas vers la réconciliation. Quand la relation entre Dieu et l'homme a été brisée, c'est Dieu qui a fait le premier pas vers la réconciliation. Il a envoyé Jésus-Christ pour mourir sur la croix. Or, Dieu est, de toute évidence, plus grand que nous. Page 116. Celui qui prend l'initiative de la réconciliation est le plus grand des deux. Les grands hommes peuvent se permettre d'être humbles. Ils acceptent d'être humiliés. Ceux qui sont morts avec Christ ont fini de se soucier de leur importance personnelle. Ils n'ont qu'un seul but, vivre pour lui. Ainsi, quand il y a un différend entre mari et femme, le plus grand des deux prend l'initiative de la réconciliation. Si la femme est celle qui prend l'initiative, alors, c'est-elle la plus grande des deux ? Le mari est encore si plein de lui-même qu'il veut que les gens viennent à lui. Les personnes mesquines sont toujours motivées par le sentiment de leur propre importance. Elles n'acceptent pas de se plier. Elles ont le courage et ne veulent pas se courber. J'ai vu des hommes abandonner la direction de leur foyer à leur femme parce qu'ils étaient trop pleins d'eux-mêmes. Ceci ne s'applique pas seulement aux circonstances où il y a une relation brisée. Même quand la relation est normale, la personne la plus mûre se donne toujours plus et donne tout ce qu'elle a. Elle pense toujours à l'autre personne. La personne qui a la stature spirituelle la moins élevée se retient toujours et s'assure qu'elle donne aussi peu que possible d'elle-même et de ses biens. C'est celle qui a le moins expérimenté les blessures de la croix. Elle est par conséquent anxieuse de se protéger et de sauvegarder au maximum tout ce qu'elle a. Ce qui la préoccupe, c'est de préserver ses biens et de s'enrichir, alors que la personne la plus mûre, celle qui a le plus expérimenté la croix, c'est que ceux qui veulent être réellement riches deviennent riches en se donnant et en donnant tout ce qu'ils ont. Le problème n'est pas d'avoir des biens ou de ne pas en avoir. Ceux qui ont expérimenté l'œuvre de la croix donnent et ceux qui l'ont expérimenté en partie seulement retiennent. Les gens donnent proportionnellement à ce qu'ils ont expérimenté de la croix. Celui dont l'expérience de la croix est très limitée, qui est mesquin dans ses pensées et dans son cœur, va se dire en lui-même « il faut que je me montre ferme. Il faut que ce soit les autres qui me recherchent. Il faut que je sois celui qu'on admire, celui qui montre sa fermeté. Je veux être celui qu'on aime le plus et qui aime le moins. De cette façon, tout le monde saura que je suis quelqu'un d'important. Il est vrai que cette personne a prouvé son importance en étant insignifiante, immature et égoïste. Les gens mûrs qui se donnent aux autres et ne cherchent pas à attirer l'attention se reprouvent par là qu'ils sont naturellement plus. Page 117. Mûr et plus fort. Par leur nature, les faibles, ceux qui ne se sentent pas en sécurité, qui ont échoué moralement, spirituellement et émotionnellement, donnent très peu et veulent recevoir toujours plus. Du fait qu'ils cherchent toujours à tirer profit de tout et de tous, ils reçoivent moins de Dieu et des hommes et s'appauvrissent de plus en plus. Si tu te donnes réellement aux autres spirituellement, émotionnellement, financièrement, matériellement, alors tu es vraiment riche. En te donnant toi-même et en donnant ce que tu possèdes, tu crées ainsi des occasions de recevoir plus. Ceux en qui la croix a fait son œuvre ne sont pas refroidis, par l'attitude égoïste et mesquine des autres. Ils ont reçu du Seigneur une grande capacité de donner, comme leur Seigneur, ils donnaient à tout le monde, y compris aux insensés, aux ingrats et aux orgueilleux. Fixe-toi l'objectif de ne rien garder pour toi de ce dont les autres ont besoin. Ne te referme pas sur toi-même quand quelqu'un a besoin de toi. N'aie pas pour objectif de recevoir des autres. Que le don soit ta manière de vivre. Donne tout ce que tu as, ne retiens rien. Mets-toi toi-même dans tout ce que tu donnes. Vide-toi toi-même en donnant, et tu seras plus riche en le faisant. S'il faut rendre service, offre-toi le premier pour faire le travail. S'il y a un plancher à nettoyer, des bancs à ranger, n'importe quel travail à faire, efforce-toi d'être le premier à te présenter pour le faire. N'attends pas que quelqu'un doive insister pour que tu le fasses, prends l'initiative. Si des avantages sont distribués et sois le dernier à t'avancer pour les recevoir. Si tu participes à un repas, laisse les autres se servir en premier. Toi, sers-toi en dernier. S'il y a de la viande, laisse les autres se servir en premier. Si tu vois une denrée rare, n'en achète pas en grande quantité pour la stocker dans ton congélateur ou dans ta maison. Ce serait de l'égoïsme. Agir ainsi équivaut à dire que si quelqu'un doit souffrir, ça ne sera... Page 118. Pas toi. Tu es en train de faire de toi celui qui pourvoit à ses propres besoins. Si tu dois prendre un transport en commun, un bus ou un avion, ne te précipite pas pour entrer le premier, laisse les autres entrer avant toi. Si quelqu'un doit rester debout, que ce soit toi, sois déterminé à emprunter le chemin de la croix. Continue. Sur ce chemin, le Seigneur Jésus a abandonné son ciel, sa place en tant que Dieu et sa place en tant que Maître. Il a pris un linge et a lavé les pieds de ses disciples. Il a établi sa seigneurie en prenant la position du serviteur. Il s'est abaissé plus que tout autre, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé au-dessus de tous. Si quelqu'un t'emprunte de l'argent, ne le lui redemande jamais. S'il ne le rembourse pas de lui-même, accepte cette perte. Accepte d'être exploité. Renonce à toi-même en ce qui concerne cet argent. N'élève pas d'ardente prière à Dieu pour lui demander de pousser ton débiteur à te rembourser ton argent. De telles prières constituent une perte de temps. Il vaut mieux prier Dieu pour le salut des pécheurs qui vont en enfer que lui demander de récupérer ton argent. Après tout, la Bible disait, en effet, une grande source de gain que la piété avec le contentement, car nous n'avons rien à porter dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter, si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. 1 Timothée 6:6-10. Désires-tu être riche? Je ne demande pas si tu es riche. Je demande si tu désires devenir riche. Si tu as la soif de richesse, tu es prêt de céder à une tentation désastreuse, si tu n'y as pas déjà cédé. Désires-tu avoir plus d'argent pour toi-même? Un meilleur emploi pour toi-même? Un meilleur salaire pour toi-même? Une maison qui t'appartienne? Page 119. Davantage d'épargne? Plus de terrain? Plus de diplômes, etc. Ces désirs montrent que ton cœur est divisé. Il y a la semence de la cupidité dans ton cœur. Il se peut qu'elle soit toute petite, mais elle est là. Si tu ne la tues pas, elle grandira et ce sera elle qui te tuera. Le but de l'Évangile, c'est de transformer les hommes à l'image du Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus avait-il de tels désirs? Il n'est pas légitime de désirer ce que Jésus-Christ n'a pas désiré et ne désire pas? Il n'est pas légitime de souhaiter être ce qu'il n'a jamais souhaité être? Il n'est pas légitime de désirer avoir quoi que ce soit que Jésus n'a pas désiré avoir. Il n'est pas légitime d'investir dans un domaine où il n'a jamais investi. Il n'est pas légitime de planifier des choses que Jésus n'a jamais planifiées. Il n'est pas légitime d'espérer quelque chose qu'il n'a jamais espéré. Il n'est pas légitime de se réjouir des choses pour lesquelles il ne s'est jamais réjoui. Il n'est pas légitime de pleurer pour des choses pour lesquelles il n'a jamais pleuré. Il n'est pas légitime d'être dérangé pour des choses qui ne l'ont jamais dérangé. Jésus avait un seul but, un seul désir, une seule obligation, un seul engagement, c'était de faire la volonté du Père. Or, la volonté du Père, c'est que les perdus soient sauvés. Il ne s'est jamais réjoui de la prospérité économique et sociale de la Palestine. Il n'a jamais remercié Dieu pour cela. Il se réjouissait quand le Père le révélait aux pécheurs et les amenait à lui. Il n'a jamais cherché à être approuvé par le monde. Il aspirait seulement à être approuvé par son Père. Page 120. Il n'a jamais discuté de l'avenir économique et des tendances sociales en vue de leur amélioration. Il discutait des tendances spirituelles en vue d'amener les hommes à Dieu. Il n'a laissé aucun bâtiment, aucune école, aucune institution portant son nom. Il a laissé des disciples pour qui il avait donné toute sa vie et des croix pour ceux qui allaient le suivre, afin que chacun prenne sa croix, qu'il la porte et qu'il le suive. Chacun doit se charger de sa croix et mourir sur cette croix. Chacun doit mourir à tous ses désirs, sauf au désir d'être comme Christ, qui s'est livré lui-même et n'a rien retenu pour lui-même. Il n'est pas honnête de t'engager dans une relation avec quelqu'un si tu n'as pas le désir de te donner complètement. C'est un péché que de vouloir toujours recevoir. C'est un péché que de donner un peu quand tu peux donner plus. Il n'est pas bon de garder ce que tu peux donner. En donnant, tu es une source de bénédiction pour les autres. Ce principe s'applique même à la conduite automobile. Celui qui est mort avec Christ ne cherchera pas à faire respecter ses droits sur la route. Si les gens veulent le dépasser à vive allure, il se calmera et les laissera passer. Si quelqu'un force le passage, celui qui porte sa croix attendra et lui permettra de passer au lieu d'insister sur son droit. Il sera patient envers les gens qui roulent lentement, sans klaxonner ni se fâcher. Il pardonnera à celui qui, par égoïsme, s'est précipité devant lui et a failli lui causer un accident. Il lui pardonnera et ne l'insultera pas au passage. S'il t'arrive de t'énerver sur la route, c'est que tu as encore besoin de mourir à toi-même. Si le ralentissement de la circulation t'impatiente, c'est que tu as besoin de la croix. Si tu ne peux pas supporter les insensés, ceux qui sont lents, nonchalants, débraillés, lents à comprendre, négligents, etc., c'est que la croix doit encore faire mourir le vieil homme en toi. C'est une grâce que de supporter les autres. Ils se privent de cette grâce, tous ceux qui sont impatients, intolérants, rudes, irritables, agressifs, insatisfaits, exigeants, ceux qui parlent fort, qui crient, ceux qui ne font que critiquer, tous ceux dont le premier commentaire sur un repas, c'est de dire qu'il y a trop de sel ou pas assez d'autres. Page 121. Ingrédients. Il se peut qu'eux-mêmes pensent être irréprochables dans leurs actes, mais leur attitude montre qu'ils fuient la croix. Ils doivent se repentir et mourir. Il n'y a pas d'autre issue. Quelle est la valeur d'une personne? Il est important de savoir comment connaître la valeur d'une personne. La valeur de quelqu'un n'est pas déterminée par sa taille ou sa corpulence, sa position sociale, la longueur de sa voiture, son statut matrimonial, le nombre de ses enfants, son lieu d'origine, la longueur de son nom, l'importance de son salaire. La valeur d'un homme est déterminée par la manière dont il traite les autres. Cela reflète ses vraies conditions. Les relations avec les proches, si tu veux savoir si un homme est grand, observe seulement la façon dont il traite ceux qui lui sont proches. J'entends par ceux qui lui sont proches son conjoint, ses enfants, ses amis, ses supérieurs hiérarchiques, ses employés, ses domestiques, etc. Un homme sans valeur traite ceux qui lui sont proches d'une façon irrespectueuse. Il est impoli à leur égard. Un mari qui rudoie sa femme est sans valeur. Une femme qui rudoie son mari est sans valeur. Considérons par exemple un homme qui traite bien les gens de l'extérieur. Il est gentil envers eux, aimable, respectueux. Il ne leur lance pas des paroles dures. Mais à la maison, il n'est pas gentil, il n'est pas aimable, il est irrespectueux et lance des paroles dures. C'est un homme sans valeur. Page 122. Une femme qui agit de même est une femme sans valeur. Elle paraît propre et bien habillée pour les gens du dehors. Le salon où elle reçoit les visiteurs est bien ordonné. Mais sa chambre présente un désordre indescriptible. Lorsqu'elle est seule avec son mari, elle revêt des habits sales, elle est débraillée et sa maison est désordonnée. Une telle femme est une hypocrite. Elle trompe les autres? Elle se trompe elle-même. Une telle personne a le cœur rempli d'hypocrisie. et ses actions le prouvent. Un homme qui offre des cadeaux à ceux du dehors mais qui n'en offre pratiquement pas à ceux qui lui sont proches est un homme sans valeur. Un homme qui entend le cri de ceux qu'il vient juste de rencontrer, mais qui est insensible aux besoins de sa femme et de ses enfants, est un homme sans valeur. Il peut arriver qu'une jeune fille chante comme un ange dans une chorale, resplendissante par l'éclat et la beauté de ses habits. Mais elle ne peut pas supporter sa camarade, avec qui elle partage le logement, de sorte que cette dernière doit finalement se séparer pour aller vivre ailleurs. Une telle jeune fille est sans valeur ? Tout son champ n'est qu'hypocrisie. Sa relation apparente avec Dieu est fausse. Elle n'aime pas la fille qu'elle voit, comment peut-elle aimer Dieu qu'elle ne voit pas ? Quand deux croyants qui vivent sous le même toit ont de si graves désaccords qu'ils ne peuvent pas les surmonter et qu'ils décident de se séparer, ils trahissent le Seigneur ? Leur christianisme est factice. Il peut arriver qu'une femme ait l'habitude de prier dans son église avec une voix toute douce, comme si le son de sa voix ne pouvait faire de mal à personne. Puis une fois rentrée à la maison, elle crie si fort que la maison tremble, qu'elle effraie son mari et ses enfants, et que les voisins doivent acheter des appareils protecteurs pour leurs oreilles. Une telle femme est hypocrite. Il peut arriver que quelqu'un soit affable et expansif quand il est en dehors de chez lui. Mais quand il est avec ses proches, il est renfermé, difficile à satisfaire, et il affiche une tête d'enterrement. Une telle personne prouve qu'elle est sans valeur. Quand quelqu'un se préoccupe plus de l'opinion publique à son sujet que de l'opinion de ceux qui vivent avec lui et qui lui sont proches, il est un insensé. Page 123. Si ceux qui te rencontrent une fois par semaine pensent que tu es un ange et que ton chauffeur, ton serviteur, ta servante ou ton balayeur au bureau pensent que tu es un diable, alors tu tiens plus du diable que de l'ange. Il se peut qu'à ton travail tu gardes le silence par lâcheté, alors que de grandes sommes d'argent sont détournées et que l'injustice prévaut. Tu as trop peur de dire le moindre mot, alors que dès que tu reviens à la maison, tu fais peser une main de fer sur ta femme, tes enfants, tes serviteurs, etc. En réalité, tu es un vrai lâche. Si tu peux avoir de l'autorité avec les faibles, si tu choisis des faibles pour travailler avec toi, afin que personne ne te conteste, si tu ne peux pas supporter la compagnie de ceux qui sont meilleurs que toi, ou de ceux qui sont tes égaux, et qui ont le courage de te dire la vérité en face, tu es un faible, un lâche et probablement un insensé. Si tu t'efforces de paraître doux comme un agneau pour attirer à toi ceux qui ont besoin de tendresse, alors qu'au-dedans de toi, tu es dur, intransigeant et aussi entêté qu'un lion ou qu'une lionne, alors tu es un réel danger pour la société. Car nombreux sont ceux qui, par soif de tendresse, vont courir vers toi mais seront écrasés par ta personnalité de fer. Tu es d'apparence amicale, et entouré de nombreux amis, tu sembles très proche de beaucoup de gens, mais en réalité tu n'as jamais pris le temps de t'investir dans une relation solide avec quelqu'un, une relation durable, qui t'a beaucoup coûté. En fait, tu te trompes toi-même et tu as bien besoin de guérison. Tu as besoin d'être soigné. Il y a quelque chose d'anormal dans le fait de n'avoir aucun ami intime auquel on a tout donné. Tu as peur de t'exposer tel que tu es, car l'amitié exige la transparence. Tu as peur de payer le prix. Car l'amitié exige de payer entièrement le prix. Tu as peur de souffrir, car il faut souffrir pour un ami. Celui qui est trop occupé à entretenir de nombreuses relations superficielles à droite et à gauche, découvrira, le jour où il sera dans le besoin, qu'il n'y a personne pour prendre spécialement soin de lui. Tous ne s'intéresseront que superficiellement à lui. Quelle est la qualité de tes relations avec ceux envers lesquels tu n'as pas besoin d'être aimable pour que ces relations durent ? Page 124. Prends l'exemple de ton conjoint ou d'un ami avec lequel une amitié existe déjà. Acceptes-tu cette relation comme allant de soi? Mets-tu tout ton cœur à l'entretenir? Es-tu sûr de ne rien retenir pour toi seul? T'efforces-tu de la développer dans tous les domaines? As-tu investi suffisamment pour développer cette relation spéciale? Qui a donné le plus dans cette relation, toi ou ton partenaire? Si c'est ton partenaire, alors tu as agi en insensé. C'est toi qui finiras par être perdant, car on donnera à celui qui a beaucoup donné. Prends le temps d'examiner tes relations personnelles avec ceux qui te sont proches. Ces relations révèlent ce qu'est vraiment ta personnalité. Nous répétons, tes relations avec ceux qui te sont proches montrent clairement qui tu es. S'il y a de constants conflits, cela montre que tu es un homme malade. Si ces relations sont aisées et souples, tu es normal. Si elles sont superficielles, tu es superficiel. Si elles sont profondes, tu es profond. Si elles sont inexistantes, tu pourrais bientôt être toi-même inexistant. Comment traites-tu ton patron, ta patronne, ton maître? Si extérieurement, tu les traites avec respect, mais que dans ton cœur tu les traites avec mépris, Dieu t'amènera en jugement pour cette hypocrisie. Si quelqu'un a des pensées et des attitudes intérieures différentes des expressions extérieures, c'est un hypocrite. Une telle personne ne connaît pas la paix. Elle n'est pas entrée dans le repos de Dieu, car dans ce repos, il y a nécessairement l'harmonie et l'intégrité. Si tes pensées, les désirs de ton cœur, tes paroles et tes actes ne sont pas en harmonie, tu es un homme malade, il y a en toi une guerre civile. Il y a une seule réponse à toutes les questions soulevées ici. Cette réponse, c'est la croix. La croix exige de toi l'humilité, admet que tu es un homme ou une femme sans valeur, admet que tu es un hypocrite. Page 125. Admet que tu es malade. Admet que tu n'as pas un seul ami. Ne te contente pas de l'admettre, mais confesse-le aussi à Dieu. Confesse-le profondément. Confesse-le maintenant même. Choisis une personne qui soit engagée avec toi dans une relation hypocrite. Confesse-lui tes défauts. Confesse-les sans chercher à te justifier en quoi que ce soit. Mets-toi à nu devant cette personne. Ouvre le cercueil de ta vie afin que l'air frais puisse y entrer. Alors la vie entrera et la mauvaise odeur partira. J'insiste sur la nécessité d'exposer à quelqu'un d'autre ton échec dans tes relations avec les autres. Après que tu te seras ouvert à lui, priez le Seigneur ensemble. Réclame-lui une guérison instantanée et durable. Crois qu'il te guérit immédiatement et qu'il continuera à te guérir chaque jour. Après cela, confesse-toi aussi aux personnes que tu as déçues et crois que Dieu va accomplir une guérison profonde. Il n'attendra pas? Confesse publiquement ta guérison, car tu ne seras plus le même. Les relations avec les subordonnés, la valeur d'un homme est déterminée également par la façon dont il traite ceux qui sont en dessous de lui. Un grand homme prouve sa grandeur par la manière dont il traite ceux qui lui sont inférieurs, ceux qui dépendent de lui, ceux qui n'ont aucune autorité sur lui, ceux qui ne sont pas aussi bénis que lui, ceux qui sont moins bien placés que lui. Parmi ceux-ci, on peut inclure sa femme, ses amis, ses subordonnés à son lieu de travail, ceux qui travaillent dans sa maison, ceux qui travaillent pour lui à son lieu de travail, les malades, les pauvres, les mendiants, etc. Si la croix a fait une œuvre profonde dans sa vie, cela affectera toutes ses relations. En fait, la manière dont il est relié à toutes ces personnes révélera combien il est grand. Or, la grandeur ne se manifeste que par la croix. La grandeur est révélée par la croix. Le croyant pour qui la croix est devenue une réalité pratique ne traitera jamais ses subordonnés avec condescendance. Tout d'abord, il reconnaît que tous les hommes sont égaux devant Dieu et que sa position d'autorité sur lui n'est que temporaire. Il reconnaît aussi que ce n'est pas grâce à quelque chose d'inhérent en lui qu'il est leur patron, mais que tout ce qu'il est et tout ce qu'il a sont des dons de Dieu. Il est donc humble dans sa façon de les traiter. Il est page 126. Aimable envers eux. Il se met à leur place et il les traite de la manière dont il aurait aimé qu'on le traite s'il était à leur place. Chaque personne devrait se mettre à la place de ses subordonnés et se demander comment est-ce que j'aimerais être traité? De cette réponse devrait dépendre sa manière de les traiter. Chaque mari doit se mettre à la place de sa femme, de sa secrétaire, de ses employés, de ses domestiques, de manière à les traiter comme il aimerait lui-même être traité. Chaque femme doit se mettre à la place de ses employés, ou de sa servante à la maison, de celle qui doit recevoir ses ordres 24 heures sur 24, et qui n'a peut-être pas souvent l'occasion de faire ce qu'elle pense ou ce qu'elle aime. Les subalternes doivent être traités avec respect. Quelle folie qu'une jeune maîtresse âgée, seulement de 24 ans, puisse rudoyer dans sa maison des domestiques âgés de 40 ans? Dieu l'appellera à rendre des comptes? Son impolitesse et son indélicatesse montrent bien que si elle est la madame dans cette maison, c'est par accident et non par mérite. Je dis à tous les patrons impolis et discours-toi que leur impolitesse montre bien que s'ils ont une position d'autorité, c'est par accident et non par mérite. Le véritable mérite est donné par la maturité du caractère. Là où la croix a travaillé, on perçoit le serviteur comme une créature merveilleuse et pour cela respectée. Le subalterne doit être encouragé. Des paroles et des attitudes d'encouragement doivent lui être adressées. Pour cela, il faut qu'il soit considéré comme un individu et pas seulement comme le chauffeur, la nourrice, le cuisinier, etc. Il doit être vu pour ce qu'il est, un enfant de Dieu, un prince ou un prince potentiel. Son travail doit être apprécié. Pour chaque parole de sanction, il doit y en avoir 99 d'encouragement et de félicitations. Il faut qu'il sente qu'on l'apprécie. Il ne devrait pas être exploité. Il ne faut jamais lui dire qu'il y a 1000 autres personnes qui aimeraient être à sa place. Il ne faut pas l'écraser. On ne doit pas le faire paraître comme un insensé. Il faut qu'il soit tellement respecté qu'il est maître à son travail. Il se peut que le serviteur, ou tout autre employé, ait une conduite tout à fait indigne, qu'il mérite le châtiment maximum. Mais, page 127, n'oublions pas que son maître méritait lui aussi le châtiment maximum de la part du Seigneur, et pourtant Jésus lui a tout de même donné le meilleur. Le serviteur doit être bien traité, non pour ce qu'il est, mais afin que son maître soit approuvé par le Seigneur. Si le maître ne traite pas bien ses subordonnés, il agit d'une manière contraire au chemin de la croix. S'il se dit « mon employé ne me sert pas bien et il ne fait pas le travail comme je le veux, je vais le renvoyer et je prendrai quelqu'un d'autre qui me servira mieux », c'est qu'il a l'obsession du « moi ». Dans cette phrase, on trouve « un moi plus deux me plus trois je ». Un tel maître est encore en train de résister à l'exigence de la croix qui est la mort à soi-même. Pour sa part, l'employé doit traiter le maître avec le maximum de respect, de loyauté et d'amour, sinon il sera renvoyé de son emploi ici-bas et peut-être aussi renvoyé de sa position devant Dieu au ciel. Je t'en prie, demande à tes employés, à la maison, au bureau, à l'atelier, de te montrer à quoi ressemble ton caractère. Permets-leur de te dire comment ils aimeraient que tu les traites. Il se peut que Dieu vienne te visiter en la personne de ton conjoint, de tes enfants et de tes amis. Dieu sera-t-il bien traité? La façon dont on exprime la gratitude, exprimer la gratitude est une marque de profonde humilité. La personne en qui la vie centrée sur le moi a été crucifiée témoigne naturellement une profonde reconnaissance. Elle est profondément reconnaissante envers Dieu pour tout ce qu'elle est et pour tout ce qu'elle reçoit. Elle est persuadée que d'elle-même, elle ne peut rien être ni rien avoir. Elle va alors manifester de la reconnaissance, non pas superficiellement, du bout des lèvres, mais du fond de son cœur. Elle manifestera cette gratitude envers tous et en toutes circonstances. Elle va la manifester envers ses supérieurs, envers ses subordonnés et envers ses égaux. Elle va la manifester envers ceux qui lui sont proches, comme envers ceux qui sont distants. Elle va la manifester pour les moindres offrandes et les plus petites attentions, comme elle le manifestera pour les cadeaux somptueux. Elle sera très généreuse dans l'expression de sa reconnaissance. Elle aura cela dans son cœur et sur ses lèvres. Page 128. Si quelqu'un lui ouvre la porte, elle sera reconnaissante pour cela et dira merci beaucoup. Si quelqu'un la prend en voiture, elle exprimera sa reconnaissance avec autant d'empressement. Elle n'émettra pas un merci précipité, à mi-voix, à peine audible. Qu'on lui donne 10 francs ou 100 000 francs, elle exprimera sa vive reconnaissance. Si on lui donne un verre d'eau ou toute autre boisson, elle va sincèrement l'apprécier. Si on lui offre l'hospitalité dans une maison, que ce soit pour une nuit ou pour un moment dans la journée, elle va exprimer sa reconnaissance en le disant ou en laissant une note écrite. Si on prépare un repas chez elle ou ailleurs, elle exprimera sa profonde reconnaissance à ceux qui lui ont préparé ce repas. Si quelqu'un lui fait un compliment tel que tu es bien habillé, tu es élégant, tu as bonne mine, ta chemise est jolie, cette personne va l'accepter en exprimant une sincère gratitude. Si elle garde le silence et dit seulement « oui », c'est comme si elle disait « je suis toujours élégant, bien habillé, etc. » Où étais-tu pendant tout ce temps pour le remarquer seulement aujourd'hui? As-tu été aveugle pendant tout ce temps? Si quelqu'un t'aime, exprime de la reconnaissance pour son amour et fais-le sans cesse. Si quelqu'un accepte d'être ton ami, ne cesse pas de lui exprimer ta reconnaissance pour cela. Sois reconnaissant envers ta femme de ce qu'elle accepte d'être ta femme et qu'elle supporte de vivre avec une personne aussi difficile que toi. Sois reconnaissant envers tes serviteurs de ce qu'ils te servent. Sois reconnaissant envers ton employeur de ce qu'il te garde à son service. Sois aussi reconnaissant envers tes parents de t'avoir mis au monde et pour toutes les souffrances qu'ils ont subies depuis le jour où tu as été conçu. Exprime-leur ta reconnaissance pour tout ce qu'ils ont investi en temps, argent, effort, soins, douleurs, etc. pour t'élever. Remercie-les pour chaque chose l'une après l'autre. Ne dis pas seulement un grand merci qui englobe toute une fois pour toutes. Page 129. Qu'est-ce qui caractérise une personne reconnaissante et quels sont les secrets de la gratitude? La personne reconnaissante sait parfaitement qu'elle n'est rien et ne mérite rien. La personne reconnaissante sait que si elle devait recevoir ce qu'elle mérite, ce serait la mort. La personne reconnaissante voit tout comme venant de Dieu. Elle est reconnaissante envers Dieu et envers les personnes que Dieu utilise sur sa route pour lui offrir sa bonté imméritée. La personne reconnaissante sait que l'ingratitude est un péché qui offense Dieu et l'homme. La personne reconnaissante sait que l'ingratitude entraîne la perte du privilège de recevoir davantage. Ceux qui sont reconnaissants reçoivent toujours plus que les ingrats. Le Seigneur Jésus a été indigné devant l'ingratitude des lépreux qui avaient été guéris. Le seul qui a exprimé sa gratitude a reçu la guérison éternelle de la lèpre du péché, alors que les autres qui avaient été ingrats ne reçurent que la guérison physique. La personne reconnaissante ne prend rien comme un dû, pas même le moindre commentaire positif, pas même un mot d'encouragement. La personne reconnaissante ne pense jamais qu'il suffit de remercier Dieu, mais elle voit aussi la nécessité de remercier l'instrument humain que Dieu a utilisé. La personne reconnaissante ne garde pas le silence sur sa reconnaissance. Elle n'est pas discrète concernant sa reconnaissance. Elle n'a pas honte d'être connue comme une personne à qui on a beaucoup donné. Jésus a exprimé sa reconnaissance envers Marie, qui avait cassé son vase d'albâtre et lavé oint, en commandant que son histoire soit racontée partout où serait prêché l'Évangile en mémoire d'elle. Il est reconnaissant envers elle jusqu'à ce jour et le sera jusqu'à la fin des temps. La personne reconnaissante abonde en remerciements. Elle n'exprime pas ses remerciements du bout des lèvres. Elle ne dit pas seulement merci alors qu'elle devrait dire merci beaucoup.